VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Michel Joseph. Au sommaire ce 13 avril 2016.
Élection présidentielle au Tchad. Les observateurs internationaux se félicitent du bon déroulement du scrutin.
Boko Haram a de plus en plus recours aux enfants pour perpétrer des attaques suicides, affirme l'UNICEF dans un nouveau rapport.
Les organisations de la société civile burkinabé dénoncent l'impunité de la répression contre les manifestations anti-Compaoré en 2014.
Au Soudan du Sud, les rebelles et le gouvernement se préparent à la formation du gouvernement prévue la semaine prochaine.
Les gardes-côtes libyens ont intercepté 6 canots transportant 649 migrants clandestins hier.
Les négociations de paix sur la Syrie reprennent ce mercredi à Genève, au moment où la trêve reste fragile.
Les prétendants au poste de secrétaire général des Nations Unies se sont adressés à l'Assemblée générale pour succéder à Ban Ki-moon en 2017.
Et avant la Minute Éco et les sports, voici le journal.
Au Soudan du Sud, la rébellion et le gouvernement marquent un pas de géant dans la mise en application de l'accord de paix d'août 2015. Alfred Ladou Gore, numéro 2 des rebelles, est rentré à Juba. La formation du nouveau gouvernement est prévue la semaine prochaine après l'arrivée du chef rebelle Riek Machar. Des détails avec Eric Manirakiza.
La mise en application de cet accord tant attendu avait été maintes fois retardée. L'arrivée annoncée de Riek Machar dans moins d'une semaine à Juba serait un symbole important pour enterrer définitivement la hache de guerre. Le numéro 2 de la rébellion, Alfred Ladou Gore, est arrivé mardi à Juba avec une délégation d'environ 60 personnes, un acte réaffirmant que la paix ne sera pas remise en question, a-t-il déclaré. Le gouvernement sud-soudanais s'est réjoui de cette avancée qui marque la fin de la guerre, selon Akol Paul, et aux responsables dépêchés pour accueillir la délégation rebelle. Pour cimenter l'accord, il est prévu la formation d'un gouvernement de transition par le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, nommé vice-président du Soudan du Sud le 12 février, un poste qu'il occupait déjà aux côtés de M. Kiir avant le déclenchement du conflit en décembre 2013. Toujours dans la mise en application de l'accord, un total de 2370 soldats et policiers rebelles sont déjà rentrés à Juba pour garantir la sécurité de leur chef. Mais malgré ce rapprochement entre les deux belligérants, les relations restaient fragiles entre les rebelles et l'armée qui s'accusent mutuellement de violer l'accord. Sur ce, Washington a appelé toutes les parties à respecter leurs engagements.
En Zambie, la police a arrêté hier 2 journalistes qui ont été relâchés sous caution. Ils sont accusés de diffamation envers le président Edgar Lungu et encourent jusqu'à 7 ans de prison. John Lyndon.
Dans un article publié le 9 août 2015 dans le Post Newspaper, un journal privé, nos confrères Funga Mukosha et Juan Chirwa ont cité l'opposant Eric Chanda qui accusait le chef de l'État zambien d'être allé en discothèque pour dépenser l'argent public. Eric Chanda a été inculpé en mars pour diffamation et libéré sous caution. Les 2 journalistes ont été, pour leur part, libérés après paiement d'une caution de près de 1 800 euros. Le 18 avril, ils devront comparaître avec Eric Chanda et risquent chacun 7 ans de prison. Ces arrestations interviennent dans un contexte de répression des opposants avant la présidentielle du 11 août, où le président sortant Edgar Lungu compte se représenter. Geoffrey Mwamba, leader d'un autre parti d'opposition, a été arrêté à 2 reprises en mars pour activité illégale et incitation à la violence.
Les gardes-côtes libyens ont intercepté hier 6 canots transportant 649 migrants clandestins et les ont remis aux autorités de Tripoli. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Hier, 7 cadavres repêchés au large du port d'El Ketf en Tunisie ont été enterrés dans un cimetière près de Ben Gherdan à la frontière libyenne. 6 canots pneumatiques avec 649 migrants à bord ont été interceptés par les gardes-côtes libyens au large de Sabratha. Ils affirment être partis du Mali, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone et même du Kenya. Ils ont tous été remis à l'instance libyenne chargée de la lutte contre l'immigration clandestine. Lundi, 115 migrants ont été secourus au large de Tripoli. Leur bateau était tombé en panne. Dans la même journée, les gardes-côtes italiens avaient sauvé plus de 1850 migrants dans 8 opérations distinctes au large de la Sicile. À partir du mois d'avril, les conditions météo étant plus favorables, les migrants, par milliers, repartent contre vents et marées à l'assaut de l'Europe. En 2015, l'Italie a vu débarquer sur son sol plus de 150 000 personnes rêvant d'une vie meilleure.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
8 prétendants au poste de secrétaire général des Nations Unies ont commencé hier à comparaître devant l'Assemblée générale de l'ONU pour des entretiens d'embauche inédits, avec l'espoir de succéder à Ban Ki-moon en janvier 2017. Des précisions avec Anastasie Tudiech.
Ban Ki-moon quitte ses fonctions à la fin de l'année après 2 mandats de 5 ans à la tête des Nations Unies. Pour l'instant, 4 hommes et 4 femmes sont sur les rangs pour lui succéder. La Bulgare Irina Bokova, directrice de l'UNESCO, l'ex-première ministre de Nouvelle-Zélande, Helen Clark, le Portugais Antonio Guterres, ancien patron du HCR, l'ex-président slovène Danilo Turk et 4 chefs de la diplomatie de pays des Balkans complètent une liste qui est loin d'être close. L'Assemblée a exigé une lettre de candidature, un CV, une profession de foi et le grand oral devant les diplomates de 193 pays. Chaque candidat aura 2 heures pour convaincre et les auditions vont s'étaler sur 3 jours. À partir de juillet, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité se réuniront pour des votes à bulletin secret en vue de soumettre un nom à l'Assemblée générale qui devrait entériner leur choix en septembre prochain.
Les négociations de paix sur la Syrie reprennent ce mercredi à Genève, au moment où la trêve reste fragile. Ce nouveau cycle de pourparlers intersyriens, qui devrait durer une dizaine de jours, intervient 3 semaines après un premier cycle n'ayant pas permis d'avancées majeures. L'opposition réclame la création d'un corps exécutif doté de tous les pouvoirs, mais dont serait exclu le président Bachar al-Assad. Le régime exige, quant à lui, un gouvernement élargi à des membres de l'opposition et sous la présidence de l'actuel chef de l'État syrien. Cette reprise des pourparlers coïncide avec les élections législatives organisées ce mercredi dans les zones contrôlées par Bachar al-Assad. Il s'agit du second scrutin depuis le début de la guerre en 2011.
L'Australie a plaidé ce mercredi pour une mise en commun mondiale des informations sur l'évasion fiscale afin de répondre au scandale des Panama Papers avant une réunion à Paris des services fiscaux des pays de l'OCDE. Dans la foulée des révélations, l'Organisation de coopération et de développement économique a convoqué pour ce mercredi une réunion du réseau international JITSIC, ce réseau qui rassemble les responsables d'administration fiscale de 46 pays a pour mission de réagir au risque de fraude fiscale à l'échelle internationale au moyen d'une collaboration active et d'un échange rapide et efficace de renseignements entre administrations fiscales.
Les Sud-Coréens ont commencé à voter pour renouveler leur Assemblée nationale lors d'un scrutin qui devrait conforter la majorité du Parti conservateur au pouvoir sur fond de menaces nucléaires nord-coréennes. Les élections à l'Assemblée nationale, unique chambre du Parlement, sont traditionnellement dominées par les sujets de politique intérieure. La hausse du chômage, la baisse des exportations et l'endettement des ménages ont généré des critiques de la politique du parti au pouvoir. Les 300 sièges de l'Assemblée sont à renouveler, 253 au suffrage direct et les 47 restants à la proportionnelle.
Scandale de contamination au plomb aux États-Unis près de Los Angeles, où le sol des environs d'une ancienne usine de recyclage de piles est fortement pollué. Un rapport des services de santé publique du comté de Los Angeles, en Californie, a révélé mardi que sur 500 maisons testées dans le voisinage de l'ex-usine de Vernon, 492 affichent des niveaux de plomb anormaux dans le sol, soit un taux de contamination de plus de 98%. Les sols de 45 de ces maisons comportaient des niveaux kilos de plomb équivalent à des déchets toxiques dangereux, précise le rapport. Le département de santé a également constaté que près de 4% des enfants de moins de 6 ans qui vivent à moins de 2 km de l'usine ont un taux de plomb élevé dans le sang qui, pour les autorités californiennes, nécessite de prendre des mesures de santé publique.
Les États-Unis toujours ne devraient pas considérer le financement d'aide humanitaire à l'étranger comme la charité, mais comme un outil crucial pour la sécurité nationale, a déclaré mardi le chanteur irlandais Bono, fondateur de la campagne contre la pauvreté, One, devant des parlementaires américains. Devant une sous-commission du Sénat chargée de superviser le financement des campagnes contre l'extrémisme violent, Bono a dit avoir récemment rencontré des réfugiés en Afrique et au Proche-Orient lorsque l'aide est structurée correctement en se concentrant sur la lutte contre la corruption et l'amélioration de la gouvernance pour pouvoir aspirer à cette aide. Ce pourrait être notre meilleur rempart contre l'attrait croissant de l'extrémisme violent, a ajouté le chanteur.
L'économie en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par John Lyndon.
Le Burkina Faso, seul pays d'Afrique de l'Ouest à s'être lancé dans l'agriculture biotechnologique au début des années 2000, a fait un virage à 180 degrés en annonçant renoncer au coton transgénique. Le Burkina estime en effet que le coton génétiquement modifié n'est pas rentable. Quelques 4 millions des 19 millions de Burkinabés vivent directement ou indirectement de l'or blanc, principal produit d'exportation et première source des devises du pays depuis la colonisation, avant d'être détrôné par l'or en 2009. Au Congo, dans la perspective de la densification de son réseau interne et de l'ouverture cette année de 3 destinations, notamment à Abidjan, Bangui et N'Djamena, Equatorial Congo Airlines, Equair si vous préférez, va émettre un emprunt obligataire de 60 millions de francs CFA sur le marché financier d'Afrique. L'opération a reçu le visa de la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. 600 millions d'euros, soit près de 394 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe que la France va débloquer en faveur du Cameroun. C'est dans le cadre de la troisième phase du contrat de désendettement et de développement CD2, couvrant la période 2016-2020. Michel Sapin, le ministre français des Finances, et Alamine Ousmane May, son homologue côté camerounais, ont signé un mémorandum d'entente irrelatif le 8 avril dernier.
Merci John pour la Minute Éco. À présent, les sports présentés par Timothée Donangmaï. Bonjour Timothée.
Bonjour Nathalie.
Quart de finale, retour de la Champions League en Europe. Le Real Madrid et Manchester City se sont qualifiés pour les demi-finales.
À sa défaite de l'aller 2-0 à Wolfsburg, le Real Madrid a répondu hier soir par un cinglant 3-0 sur sa pelouse de Santiago Bernabéu. Un triplé que le club madrilène doit à son magicien portugais Cristiano Ronaldo, buteur au 16e, 17e et 77e minutes. L'autre quart de finale s'est soldé par la courte victoire 1-0 de Manchester City contre le PSG. Manchester City avance, les deux clubs s'étant quittés sur un score de parité, 2-2 au match aller à Paris.
Les deux derniers quarts de finale, le retour, c'est demain.
Duel d'attaquants à distance, Antoine Griezmann, passe-partout de l'Atlético Madrid, défie Luis Suarez, dynamiteur du FC Barcelone, dans ce quart de finale après la victoire catalane de l'aller 2-1. L'attaquant grec Kostas Mitroglou devra lui mener la charge du Benfica Lisbonne contre le colosse Bayern Munich. Après la courte défaite subie à l'aller 1-0 la semaine dernière en Allemagne, les champions du Portugal peuvent encore rêver d'un exploit sur leur pelouse du Estadio da Luz.
Match de folie à Auckland lors de la Ligue des champions d'Océanie.
L'arbitre George Time est peut-être entré dans les annales du football en sortant 6 fois de sa poche son carton rouge. À l'issue de 9 minutes de temps additionnel, le club fidjien du Nadi FA l'a emporté 4-3 contre les Samoans du Kiwi FC grâce à un quadruplé de son buteur Anish Kem. Mais tout le monde retiendra les 6 cartons rouges et 11 jaunes que l'arbitre a distribués au cours de ce match.
Et en tennis, tournoi de Monte-Carlo.
Andy Murray a peiné pour éliminer le Français Pierre-Hugues Herbert en 3-7, 6-2, 4-6, 6-3 mardi lors de son entrée en lice. Et pour terminer, les résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain, Nathalie.
Oui, les résultats des matchs d'hier soir, New York Knicks, Indiana Pacers, 90 à 102, Miami Heat, Détroit, 99 à 93, Philadelphia, Toronto, 98 à 122, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, 98 à 102, et Memphis, Los Angeles Clippers, 84 à 110.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Élections présidentielles au Tchad. Les observateurs internationaux se félicitent de la bonne organisation de cette consultation électorale. Ils estiment que les irrégularités constatées par l'opposition ne sont pas de nature à mettre en cause ce scrutin. Des précisions de notre correspondant André Kodmadjingar.
En dépit des contestations politiques et de la grogne sociale due notamment à la dégradation des conditions de vie, la mission estime que l'élection présidentielle du 10 avril 2016 s'est déroulée dans un climat relativement plus consensuel que le scrutin précédent.
Diankunda Traoré est le chef de mission d'observation de l'Union africaine. Pour lui, la disparition et le bourrage des urnes dans certains bureaux de vote annoncés par l'opposition ne sont que des spéculations. Il invite les acteurs impliqués dans cette course à respecter la volonté du peuple exprimée à travers les urnes.
À notre niveau, nous n'avons pas constaté de bourrage d'urnes. Cette rumeur a beaucoup couru. Nous ne nous parlons que des choses qui sont avérées. La démocratie est un apprentissage, c'est un processus qui est long et qui n'est pas facile. Et un des impératifs de la démocratie, c'est vraiment d'accepter les choix des citoyens et des électeurs. On peut gagner, on peut perdre. Donc, quand on perd, il faut l'accepter sportivement.
Toutefois, Diankunda Traoré invite la CENI, Commission électorale nationale indépendante, à faire preuve de professionnalisme dans la compilation des résultats.
La mission exhorte la CENI à faire preuve d'encore plus de professionnalisme et de transparence, afin que les résultats provisoires qui seront rendus publics soient effectivement l'expression de la volonté des Tchadiennes et des Tchadiens. Elle exhorte les candidats à cette élection à faire preuve de patience dans l'attente des résultats et à maintenir le climat de paix et d'apaisement qui a prévalu jusque-là dans le pays. La mission invite les candidats à respecter le verdict des urnes et à utiliser les voies légales en cas de contestation des résultats.
Le chef des missions d'observatoire de l'Union africaine souligne par ailleurs que le retrait de la société civile de la CENI n'entame en rien la crédibilité de cette élection.
La présence des représentants de la société civile au sein de la CENI centrale et des démembrements était un gage de transparence et de crédibilité pour de nombreuses parties prenantes rencontrées par la mission. La suspension de la participation des représentants des organisations de la société civile aux travaux de la CENI, en protestation contre la détention de certains de leurs membres, n'a pas affecté outre mesure le fonctionnement de l'administration électorale.
Selon la mission conjointe d'observation du groupe international pour la promotion de la démocratie et du système électoral paix et développement, le premier tour de l'élection présidentielle du 10 avril dernier est libre et conforme à la Constitution et aux lois de la République du Tchad ainsi qu'aux standards internationaux et demande à la CENI de publier les résultats provisoires dans un délai requis. André Kodmadjingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur l'après scrutin présidentiel au Tchad. Un vote dans le calme, mais l'inquiétude gagne le pays. Dans l'attente des résultats déjà contestés, le Tchad se dirige-t-il vers une crise post-électorale? Que signifie pour le pays et la région un éventuel cinquième mandat d'Idriss Déby Itno après 26 ans au pouvoir? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Boko Haram a de plus en plus recours aux enfants pour perpétrer des attaques suicides, notamment au Nigeria, au Cameroun, au Niger et au Tchad. C'est l'UNICEF qui l'affirme dans un rapport intitulé « Beyond Chibok, au-delà de Chibok », un document publié près de 2 ans après l'enlèvement par le groupe islamiste nigérian de 276 lycéennes dans le nord-est du Nigeria. Pour en savoir davantage, Jacques Aristide s'est entretenu avec Laurent Duvillier, chargé de communication régionale pour l'UNICEF.
Alors c'est un rapport qui est très inquiétant parce que ça fait 2 ans que les jeunes filles de Chibok ont été enlevées. Le monde a été ému Mais deux ans après, non seulement la plupart d'entre elles n'ont pas été libérées, mais en plus, près de 2000 autres jeunes filles et adultes ont été enlevées à travers quatre pays de la région. Souvent, ces enfants sont transformés en esclaves sexuels, en combattants et même aujourd'hui en kamikazes. Je n'aime pas les appeler kamikazes, mais ce sont vraiment des attaquants suicides. Et le monde, malheureusement, n'a pas donné l'attention qu'il fallait à tous ces enfants. Juste pour donner une perspective, il y a un an, juste un an, l'UNICEF parlait de 800 000 enfants déplacés par le conflit. Aujourd'hui, on en est à 1,3 million d'enfants qui ont fui les violences de Boko Haram, non seulement au Nigeria, mais aussi dans les trois pays environnants, le Niger, le Cameroun et le Tchad. Nous avons besoin de 97 millions de dollars américains cette année-ci pour couvrir les besoins humanitaires de ces enfants. Nous n'en avons reçu à l'heure actuelle moins de 12%.
Qu'avez-vous noté de nouveau ?
Un des phénomènes que nous voyons et qui nous préoccupe également, c'est l'augmentation du nombre d'attaques à la bombe et spécialement les attaques à la bombe qui impliquent les enfants. C'est en augmentation au Nigeria, c'était déjà le cas il y a un an, mais plus préoccupant encore au Cameroun, ce n'était pas le cas il y a un an. Et spécialement des enfants qui sont parfois très jeunes, qui ont parfois seulement 8 ou 10 ans et qui sont utilisés. Certains d'entre eux n'ont même pas connaissance de la gravité des actes qu'ils posent, mais ils sont instrumentalisés par les groupes armés, par Boko Haram, pour mener des actes terroristes contre leur communauté elle-même, contre leur famille elle-même. Et c'est ce qui est le plus horrible.
Quelles sont les séquelles pour ces enfants, en particulier ceux et celles qui ont été relâchés après avoir vécu en captivité ?
Alors, les séquelles sont énormes. Il y a aujourd'hui une discrimination face à ces nombreuses jeunes filles aujourd'hui qui ont vécu le calvaire. On pourrait penser qu'après leur libération, c'est la fin du cauchemar. Eh bien, souvent, c'est juste le début. Elles ont été trois fois victimes. Le jour de leur enlèvement, durant leur captivité, et malheureusement, après leur libération, elles sont à nouveau victimes quand elles retournent à la maison où là, elles sont rejetées par leur propre famille. Pour faire en sorte que les communautés comprennent que le pire qu'elles puissent faire, c'est de bannir leurs enfants. Si elles le font, Boko Haram aura vraiment gagné. Boko Haram aura réussi non seulement à tuer des gens, mais à faire imploser les communautés. Il est important que les communautés puissent réintégrer ces enfants, de comprendre que ces jeunes filles qui ont été, malgré elles, impliquées dans ces attentats, doivent être considérées comme des victimes et ne sont pas les bourreaux.
Laurent Duvillier du bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre nous parlait via Skype de Dakar, la capitale sénégalaise.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Dans l'est de la RDC, plus de 1900 habitants de la chefferie de Ninja, à environ 75 km au nord-ouest de Bukavu, se sont réfugiés à Kalongué après avoir fui les combats entre l'armée et les milices Raia Mutomboki fin mars dans le sud Kivu. Les familles d'accueil qui reçoivent ces personnes déplacées étant elles-mêmes dépourvues de moyens de subsistance conséquents, la société civile plaide pour une assistance humanitaire d'urgence. Un reportage d'Ernest Mouhérou.
Ils sont de milliers, les hommes, femmes, vieillards et enfants qui quittent la chefferie des ninjas en territoire des Kabare au sud Kivu pour se réfugier dans le groupement des Kalongué en territoire des Kalehe, soit à environ 1 à 2 heures de marche à pied. Selon la société civile des ninjas, le conflit de leadership entre deux fils du feu, le roi Naninja Maeshe, est au centre de cette tension récurrente. Ces deux fils, Freddy Bataona et Marcel Chiougo, se réclament chacun successeur légitime du trône. D'après le président de la société civile de Kalongué Mushagalu Sarubenga, les belligérants qui s'affrontent à Ninja brillent même les maisons de la population civile, au point que depuis le 27 mars 2016, c'est une marée humaine qui se déverse dans les localités de Moulé, Bissisi et Chaminounou, en groupement des Kalongué. Les familles d'accueil sont débordées.
Ils sont très nombreux, plus de 350 ménages déplacés. Même les familles d'Aké n'ont pas assez de capacité pour encadrer leurs frères qui viennent des ninjas. Par exemple, un kilo de farine se négocie entre 200 et 250 francs. Mais aujourd'hui, c'est déjà entre 300 et 500 francs congolais. Et donc, nous lançons d'abord un cri d'alarme qui est assistance à tous ces déplacés et même à certaines familles des Kalongé identifiées comme familles d'accueil pour certains élèves déplacés. On ne sait pas s'ils vont rentrer dans des champs de bataille pour étudier.
Selon le Bureau de coordination humanitaire des Nations Unies au Tchad-Sud-Kivu, plus de 1900 habitants des ninjas fuient depuis fin mars les affrontements récurrents, tantôt entre factions rivales des milices dénommées Raia Mutomboki, tantôt entre Raia Mutomboki et les forces armées de la RDC. Pour le député provincial élu des Kabare Augustin Burungé, il est tant que l'État congolais sécurise davantage la population des ninjas en mettant fin au conflit de succession royale qui engendre des milices au compte de l'un ou l'autre des fils du roi décédé en 2013.
En tant qu'élite de Kabale, nous demandons à ce que la paix revienne dans cette partie de la province parce que ni le Mwami n'est pas là, ni l'administrateur n'y arrive même pas. Il n'y a que les militaires et les Raia Mutomboki. La grande population a déjà fui cette contrée-là.
Déjà en 2014, 7000 autres déplacés ont fui ces conflits sanglants et se retrouvent jusqu'à ces jours à Kalongé. Avec ces nouveaux déplacements, la communauté humanitaire au sud Kivu a déjà validé l'envoi d'une mission d'évaluation de la situation de vulnérabilité de ces déplacés dans le cadre du mécanisme de réponse rapide au mouvement des populations. Ernest Mouero Bukavu, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, la coalition contre la vie chère a dénoncé l'impunité de la répression contre les manifestations ayant abouti à la chute du régime du président Blaise Compaoré fin 2014. Nicolas Pineau a joint le vice-président de cette coalition, Chrysogone Zougmoré.
Nous avons enregistré lors de l'insurrection populaire un certain nombre de martyrs qui sont tombés sous les balles des éléments de l'ex-RSP. Et jusqu'à ce jour, nous attendons que la lumière soit faite sur ceux-là qui ont donné l'ordre de tirer sur ces manifestants et sur ceux-là qui ont effectivement tiré sur ces manifestants. Ça fait plus d'une année que ça dure et nous pensons que cela a suffisamment duré. Donc nous exigeons que la lumière soit faite assez rapidement sur ce dossier de crime qui reste malheureusement jusqu'ici impuni.
Vous parlez de passivité ou d'obstruction à la justice dans cette affaire ?
Non, mais on ne peut pas parler d'obstruction à la justice, puisque bon, nous avons quand même constaté ces derniers temps que la justice a relativement les mains libres pour procéder à un certain nombre d'inculpations. Du reste, vous savez qu'en ce qui concerne le dossier Norbert Zongo, nous avons assisté à des inculpations à la fin de l'année 2015. Donc la justice, normalement, devrait quand même faire avancer les choses à ce niveau-là également en ce qui concerne les martyrs de l'insurrection et ceux de la résistance populaire au putsch de septembre 2015.
Qu'en est-il des réparations financières attribuées aux victimes de cette répression ?
Il n'est pas évident que tout le monde d'abord ait obtenu réparation parce que jusqu'à une période récente, il y a des familles qui étaient encore en reste par rapport à ces réparations-là. Le deuxième élément qu'il faut souligner, c'est que, bon, en termes de réparation, c'est vraiment le strict minimum que le gouvernement de transition a eu à leur apporter. Donc, l'essentiel pour nous, comme je l'ai dit, c'est que la justice puisse se faire. Et s'il y a réparation, que ces réparations-là puissent être suffisamment conséquentes en rapport avec ce que la justice aura décidé.
Qu'attendez-vous de la justice burkinabé concernant le cas de l'ancien président Blaise Compaoré ?
Oui, mais de toute façon, vous savez qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre le président Compaoré. Et nous attendons que les choses suivent leur cours. À notre connaissance, le mandat d'arrêt n'a pas été levé. Donc, il appartient à la justice de s'assumer jusqu'au bout et de faire en sorte que, en tout cas, sa décision soit respectée, aussi bien par les autorités ivoiriennes que par les autorités burkinabé. Le président Compaoré, et qui, en principe, devrait pouvoir accepter de venir assumer toutes ses responsabilités après avoir géré le Burkina pendant près d'une trentaine d'années. Je crois qu'il serait quand même judicieux et courageux de sa part de venir répondre de ce dont on l'accuse à travers donc les éléments ayant concouru à lancer ce mandat d'arrêt international.
Chrysogome Soumouré, vice-président de la coalition contre la vie chère et président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi là.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph. Avec vous à la présentation, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com pour l'info 24h sur 24. Bon mercredi à toutes et à tous.